Stanley J. Weinbaum. Adaptation ultime. Le docteur Daniel Scott, ses profonds yeux noirs brillant de la flamme de l'enthousiasme, se tut enfin et se mit à regarder la ville, ou la portion de la ville qui était visible depuis la fenêtre du bureau d'Hermann Bach, le docteur Hermann Bach, du Grand Mercy Hospital. Il y eut un moment de silence. Le vieil homme sourit avec une certaine indulgence, et même avec quelque mélancolie, en regardant le jeune biochimiste. « Continuez, Dan, dit-il. Donc, vous pensez que le fait de se remettre d'une maladie ou d'une blessure n'est rien d'autre qu'une forme d'adaptation. Et ensuite ?» « Eh bien, lança l'autre, je me suis mis à chercher quel était l'organisme vivant doté des meilleures capacités d'adaptation. Et lequel est-ce ? Les insectes bien sûr. Coupez une aile, elle repousse. Coupez la tête, recollez-la sur le corps sans tête d'un autre individu de la même espèce, et il revit. Et quel est le secret de leur extraordinaire capacité d'adaptation ?» Le docteur Bach haussa les épaules. « Oui, quel est-il ?» Scott prit soudain un air sombre. « Je n'en suis pas certain, murmura-t-il. C'est glandulaire, bien sûr, une question d'hormones. » Il s'enthousiasma à nouveau. « Mais je suis sur la piste. Et donc, je recherche l'insecte le plus adaptable. Et quel est-il ?»« La fourmi, suggéra le docteur Bach. L'abeille ? Le termite ?» « Bah, ce sont les plus évolués, pas les plus adaptables. Non, il y a un insecte qui est connu pour produire un plus grand pourcentage de mutants que tous les autres, plus de monstres, plus de types biologiques. C'est celui que Morgan a utilisé pour ses expériences sur les effets des rayons X sur l'hérédité, la mouche drosophile, la drosophile ordinaire. Vous vous souvenez ? Elles ont les yeux rougeâtres, mais, exposées aux rayons X, elles produisent une descendance aux yeux blancs. Et il s'agissait d'une véritable mutation, car les spécimens aux yeux blancs avaient la capacité de se reproduire. Des caractéristiques acquises ne peuvent pas se transmettre, mais celles-ci l'ont été. En conséquence, je sais, interrompit le docteur Bach. Scott retint son souffle. « Donc, j'ai utilisé des drosophiles, reprit-il. J'ai desséché leur corps, injecté un additif, et j'ai fini par obtenir un sérum, après des semaines à clarifier le produit à l'albumine, à l'évaporer in vacuo, à le rectifier avec... Mais les aspects techniques ne vous intéressent pas. J'ai obtenu un sérum. Je l'ai essayé sur des cochons d'Inde atteints de tuberculose, et... » Il fit une pause dramatique. Ils ont été guéris. Ils se sont adaptés au bacille de la tuberculose. Je l'ai essayé sur un chien enragé, il s'est adapté. Je l'ai essayé sur un chat qui s'était brisé l'épine dorsale, elle s'est ressoudée. Et maintenant, je vous demande de me donner l'occasion de l'essayer sur un être humain. Le docteur Bach fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas prêt, grogna-t-il. Vous ne serez pas prêt avant 2 ans. Essayez-le sur un anthropoïde, puis essayez-le sur vous-même. Je ne peux pas risquer une vie humaine pour une expérience qui n'en est qu'à ce stade. Oui, mais je n'ai rien sous la main qui ait besoin d'être soigné, et pour un anthropoïde, allez voir le comité pour lui demander des fonds pour acheter un singe, si vous pouvez. J'ai essayé. » « Adressez-vous à la Fondation Stoneman, alors. »« Pour voir le Grand Mercy Hospital perdre tout son crédit auprès de la Fondation. »« Écoutez, docteur Bach, je vous demande juste une chance, un indigent ou tout ce que vous voudrez. »« Les indigents sont des êtres humains. » Le vieil homme regarda ses mains d'un air renfrogné. « Écoutez, Dan, je ne devrais même pas vous en donner autant. » parce que cela va à l'encontre de l'éthique médicale. Mais si je trouve un cas sans espoir, absolument sans espoir, vous comprenez, et si le patient y consent, alors je serai d'accord. Et c'est mon dernier mot. Scott grogna. Essayez un peu de trouver un cas comme ça. Si le patient est conscient, vous penserez qu'il y a de l'espoir, et s'il ne l'est pas, comment pourra-t-il donner son accord? Il n'y a pas de solution. Mais il y en eut une. Moins d'une semaine plus tard, Scott entendit soudain le haut-parleur dans le coin de son petit laboratoire grésiller son nom. « Docteur Scott, Docteur Scott, Docteur Scott, dans le bureau du Docteur Back. » Il termina son titrage, nota les chiffres et se précipita dans le bureau de Back. Le vieil homme arpentait nerveusement le sol quand Scott entra. « J'ai votre cas, Dan, » murmura-t-il. « C'est contre toute forme d'éthique, et pourtant, je ne peux pas m'imaginer que vous puissiez lui faire le moindre mal. Mais vous feriez bien de vous dépêcher. Venez dans la chambre d'isolement. » Ils se hâtèrent. Dans la petite pièce cubique, Scott s'arrêta horrifié. « Une fille, » murmura-t-il. Physiquement, elle n'avait sans doute jamais été que terne et quelconque. Mais, étendue là, avec la pâleur de la mort déjà sur ses joues, elle avait une apparence de sombre douceur. Mais c'était là le seul charme qu'elle eût jamais pu avoir. Ses courts cheveux noirs étaient gras en désordre et filasses, ses traits sans relief et peu attirants. Elle respirait d'un souffle râpeux presque inaudible, et ses yeux étaient clos. Considérez-vous que ce soit un cas pertinent ? Demanda Scott. Elle est presque morte. Le docteur Back acquiesça. Tuberculose, dit-il, au stade terminal. Ses poumons sont hémorragiques, c'est une question d'heures. La fille toussa, des éclaboussures de sang apparurent sur ses lèvres pâles. Elle ouvrit des yeux ternes d'un bleu délavé. « Alors, » dit Back, « consciente, hein ? Voici le docteur Scott. Dan, voici... » Il jeta un coup d'œil sur la carte qui était au pied du lit. « Miss... Kyra Zelas. » « Le docteur Scott a mis au point un produit, Miss Zelas. Comme je vous en ai averti, il ne sera probablement pas efficace, mais je ne vois pas comment il pourrait vous faire du mal. Y consentez-vous ? » Elle répondit d'une voix faible. « Bien sûr, je suis fichu de toute façon. Quels sont les risques ?»« Très bien, vous avez la seringue, Dan. » Back prit le tube de sérum, clair comme de l'eau. « Un point particulier pour l'injection ?»« Non, alors donnez-moi le bras. » Il enfonça l'aiguille dans le bras de la fille. Dan remarqua qu'elle ne tressaillit même pas à la piqûre de la pointe d'acier. Mais resta stoïque et passive pendant que 30 centimètres cubes de liquide étaient injectés dans ses veines. Elle toussa à nouveau, puis ferma les yeux. « Sortons d'ici !» ordonna Back d'un ton bourru, tandis qu'il retournait dans le hall. « Du diable si j'aime ça ! Je me sens aussi sale qu'un chien !» Il semblait se sentir moins mal, toutefois, le jour suivant. « La patiente est toujours en vie, » annonça-t-il à Scott. « Si j'osais en croire mes yeux, je dirais qu'elle va un peu mieux. Un tout petit peu mieux. Son cas reste toutefois désespéré. » Mais le jour suivant, Scott se retrouva dans le bureau de Back, dont les yeux gris fatigués avaient une expression vraiment déconcertée. « Zelas va mieux, » murmura-t-il. « Pas de doute là-dessus. » « Mais gardez votre sang-froid, Dan. De tels miracles se sont déjà produits, et sans l'aide de sérum. Attendez que nous l'ayons gardé suffisamment longtemps en observation. » À la fin de la semaine, il devint évident que la période d'observation ne serait pas longue. Kyra Zelas semblait refleurir sous leurs yeux, comme une variété de plantes tropicales à croissance rapide. Curieusement, elle n'avait rien perdu de sa pâleur. Mais les contours anguleux de son visage s'adoucissaient, et une étincelle semblait croître dans son regard. Les taches sur les poumons disparaissent, murmura Bach. Elle a arrêté de tousser et il n'y a plus trace d'aucune bactérie dans ses cultures. Mais la chose la plus étrange, Dan, et je n'arrive pas à me l'expliquer, c'est la façon dont elle réagit aux écorchures et aux piqûres. Hier, j'ai prélevé un échantillon de sang pour un test de Wassermann. Et ça a l'air complètement fou. La trace de piqûre s'est refermée juste après que j'ai pu tirer 1 cm³. Refermée et complètement guérie. Une semaine plus tard. Dan, je ne vois plus aucune raison de garder Kyra ici. Elle va bien. Toutefois, je souhaiterais que nous puissions la garder en observation. Il y a un vrai mystère autour de votre sérum. Et de plus, je n'aime pas l'idée de la renvoyer aux habitudes de vie qui l'ont conduite ici. Que faisait-elle? De la couture, travail à la tâche dans quelque atelier clandestin, quand elle arrivait à trouver du travail. Une fille terne, laide et sans éducation. Mais il y a quelque chose d'intéressant chez elle. Elle s'adapte vite. Scott lui lança un étrange regard. « Oui, dit-il, elle s'adapte vite. » Donc, reprit Bach, il m'est venu à l'esprit qu'elle pourrait s'installer chez moi. Nous pourrions la garder en observation, vous comprenez. Et elle pourrait aider la femme de ménage. Cela m'intéresse. Bon Dieu, cela m'intéresse sacrément. Je pense que je vais lui donner cette chance. Scott était présent lorsque le docteur Bach fit cette suggestion à la fille. Kyra sourit. « Bien sûr, dit-elle, son visage pâle et sans attrait s'éclairant. Merci. » Bach lui donna l'adresse. « Mrs. Getz vous accueillera. Ne faites rien cet après-midi. En fait, cela ne vous ferait pas de mal de simplement vous promener dans le parc pendant quelques heures. » Scott regardait la fille tandis qu'elle traversait le hall vers l'ascenseur. Elle avait repris un peu de poids, mais elle était toujours maigre, presque émaciée, au point que son vieux tailleur noir pendait sur elle comme sur un porte-manteau. Une fois qu'elle fut partie, il retourna pensivement à ses tâches habituelles, et un quart d'heure plus tard, il descendit à son laboratoire. Au rez-de-chaussée, c'était le tumulte. Deux policiers portaient le corps de quelque vieil homme, dont la tête n'était plus qu'une ruine sanglante. C'était un chaos de voix surexcitées, et il vit une foule amassée sur l'escalier extérieur. « Que se passe-t-il » cria-t-il. « Un accident ?»« Un accident !» aboya un policier. « Un meurtre, vous voulez dire ?»« Une femme marche vers ce vieux gars, ramasse une lourde pierre sur le muret du parc, le frappe et prend son portefeuille. Tout juste comme je vous le dis. » Scott regarda par la fenêtre. Le panier à salade faisait marche arrière parmi la foule sur le bord de la rue. Deux policiers massifs encadraient une mince silhouette en noir, la poussant vers les portes du véhicule. Scott poussa un cri de surprise. C'était Kyra Zelas. Une semaine plus tard, le docteur Bach regardait fixement l'âtre de la cheminée de sa salle à manger. « Ce n'est pas notre affaire » répéta-t-il. « Mon Dieu !» éclata Scott. « Pas notre affaire ! Comment savez-vous que nous ne sommes pas responsables ? Comment savez-vous si notre injection n'a pas dérangé son esprit ? Les hormones peuvent faire cela. Notre affaire est une histoire d'hormones. Peut-être l'avons-nous rendue folle. » « Très bien, dit Bach. Écoutez, nous assisterons au procès demain, et si cela se présente mal pour elle, nous contacterons son avocat et lui dirons de nous appeler à la barre. Nous attesterons qu'elle venait juste de sortir après une longue et dangereuse maladie et qu'elle ne peut être considérée comme pleinement responsable, ce qui est l'entière vérité. » Le lendemain, en milieu de matinée, ils étaient entassés sur les bancs de la salle d'audience bondée. Le procès commença. 3 personnes avaient été témoins de l'événement. Ce vieux, il achète des graines pour les pigeons. Ouais, je lui en vends tous les jours, ou je lui en vendais. Mais ce coup-là, il n'avait pas de monnaie, alors il sort son portefeuille et je vois qu'il est rempli de billets. Et une minute après, je vois la dame qui ramasse la pierre et qu'il frappe avec. Et puis elle prend le fric. Décrivez-la, s'il vous plaît. Elle est maigre et habillée en noir. C'est pas une beauté, d'ailleurs. Les cheveux châtain foncé, les yeux foncés, je sais plus s'ils étaient bleu foncé ou noir. « C'est à vous, » interrompit le procureur. Un jeune homme nerveux, avocat commis d'office, avait dit les journaux, se leva. « Vous dites, » dit-il d'une voix hésitante, « que l'agresseur avait des cheveux bruns et des yeux sombres. »« Ouais. » « L'accusée veut-elle bien se lever ?» Kaira Zelas tournait le dos à Scott et à Buck lorsqu'elle se leva, mais Scott se raidit. Il y avait quelque chose d'étrangement différent dans son apparence. Son vieux tailleur noir ne pendait plus aussi librement sur son corps maigre. Et ce qu'il put apercevoir de son visage avait l'air, eh bien, magnifique. « Veuillez enlever votre chapeau, Miss Zelas, » demanda l'avocat d'une voix de fossé. Scott poussa un cri. La masse de cheveux qu'elle révélait était aussi brillante que de l'aluminium. « Je constate, votre honneur, que l'accusée n'a pas une chevelure sombre, ni, si vous voulez bien regarder attentivement, des yeux sombres. Je suppose qu'on peut admettre qu'elle se soit teint les cheveux pendant qu'elle était en détention, et en conséquence, » il brandit une paire de ciseaux. « Je suggère qu'une mèche de ses cheveux soit soumise à des tests par tout chimiste qui sera choisi par la cour. La pigmentation est entièrement naturelle. Et en ce qui concerne les yeux, mon honorable adversaire suggérera-t-il aussi qu'ils ont été chimiquement éclaircis ?» Il se retourna vers les témoins qui étaient bouche bée. « Cette dame est-elle celle que vous prétendez avoir vue commettre le crime ?» L'homme fit les yeux ronds. « Je sais pas. »« Était-ce elle ?»« Non. » L'avocat sourit. « Ce sera tout. »« Voulez-vous venir à la barre, Miss Zelas ?» La jeune femme avait la démarche souple d'une panthère. Lentement, elle se retourna et fit face à la cour. Scott avait le cerveau en ébullition et ses doigts s'enfoncèrent dans le bras de Buck. Des yeux couleur d'argent, une chevelure d'aluminium, un teint d'albâtre. La jeune femme à la barre était sans aucun doute la plus magnifique créature qu'il ait jamais vue. L'avocat parlait à nouveau. « Expliquez à la cour avec vos propres mots ce qui est arrivé, Miss Zelas. » Avec beaucoup de naturel, elle croisa ses bras sveltes et commença à parler. Sa voix était basse, sonore, excitante. Scott devait se faire violence pour se concentrer sur le sens des mots plutôt que sur le son de sa voix. « Je venais de quitter le Grand Mercy Hospital, » dit-elle, « où j'avais été malade pendant de longs mois. » Je traversais le parc lorsque soudain une femme en noir s'est précipitée sur moi, m'a plongé un portefeuille vide dans les mains et a disparu. Un moment plus tard, j'étais entouré d'une foule hurlante et, eh bien, c'est tout. « Un portefeuille vide, dites-vous ? » demanda l'avocat. « Et qu'en est-il de l'argent trouvé dans votre propre sac et dont mon éminent collègue prétend qu'il était volé ?» « Il était à moi, » répondit-elle, « à peu près 700 $. » Buck siffla. « C'est un mensonge. Elle avait 2 $ et 33 cents sur elle lors de son admission à l'hôpital. « Voulez-vous dire qu'il s'agit de la même Kaira Zelas qui était à l'hôpital ?» balbutia Scott. « Je ne sais pas. Je n'y comprends rien. Mais si jamais je revois un jour votre satané sérum... » « Regardez, Dan, » murmura-t-il d'une voix tendue, « sa chevelure quand elle est au soleil. » Scott regarda plus attentivement. Par hasard, un rayon du soleil au zénith filtrait par une fenêtre haute et par instant, du fait du balancement d'un store, il effleurait la métallique radiance des cheveux de la jeune femme. Scott finit par se rendre compte que, de façon subtile mais certaine, chaque fois que le soleil la touchait, la chevelure passait d'une teinte d'aluminium à celle d'un blond doré. Un déclic se produisit dans son cerveau. Il y avait là un indice, mais il ne pouvait le trouver. Les pièces du puzzle étaient là, mais elles étaient impossibles à assembler. La jeune femme à l'hôpital et sa réaction aux incisions, et la jeune femme et ses réactions à la lumière. « Il faut que je la voie, » murmura-t-il. « Il y a quelque chose. Écoutez. » L'avocat plaidait. « Et nous demandons le classement de l'affaire, votre honneur, du fait que l'accusation a totalement échoué, ne serait-ce qu'à identifier ma cliente. » Le marteau du juge s'abattit. Pendant un moment, son regard de vieil homme s'attarda sur la fille aux yeux d'argent avec cette incroyable chevelure. Puis, « Affaire classée, » aboya-t-il. « Le jury peut disposer. » Il y eut un grand tumulte de voix, des flashs crépitants. La femme sur le banc des témoins se leva avec une parfaite élégance, sourit de ses lèvres adorables et innocentes et s'en alla. Scott attendit qu'elle passe à sa portée et l'appela « Miss Zelas !» Elle s'arrêta. Ses étranges yeux argentés s'éclairèrent tandis qu'elle les reconnaissait. « Docteur Scott, » dit-elle de sa voix de clochette, « et le docteur Bach ?» C'était elle, c'était la même fille. C'était cette fille terne et négligée de la salle de quarantaine, cette créature étrange et magnifique aux couleurs exotiques. Bouche bée, Scott parvenait maintenant à reconnaître ses traits, mais ils étaient transformés comme par enchantement. Il se fraya un passage à travers les photographes, les journalistes et les curieux. « Avez-vous un endroit où aller ?» lui demanda-t-il. « L'offre du docteur Bach est toujours valable. » Elle sourit. « Je vous en suis très reconnaissante, » murmura-t-elle. Et ensuite, à la foule des reporters. « Le docteur est un de mes vieux amis. » Elle était tout à fait à l'aise, calme, et ne montrait pas le moindre trouble. Quelque chose attira le regard de Scott. Il acheta un journal et regarda fébrilement la photo, celle qui avait été prise au moment où la fille avait retiré son chapeau. Il sursauta. Sa chevelure était absolument brune. Il y avait aussi un commentaire sous la photo qui disait que sa chevelure étonnante semblait plus sombre sur les photos qu'elle n'en avait l'air à l'œil nu. Il fronça les sourcils. « Par ici, » lui dit-il. Puis il écarquilla à nouveau les yeux de surprise. Car au soleil de midi, son teint n'était plus d'un blanc d'albâtre, mais délicatement bronzé, comme si elle s'était exposée de longues heures au soleil. Ses yeux étaient d'un violet profond, et ses cheveux, cette petite boucle qui n'était pas cachée par son chapeau, étaient aussi noirs que les colonnes de basalte de l'enfer. Kyra avait insisté pour s'arrêter afin de remplacer son vieux tailleur noir, et avait finalement acheté une tenue complète. Elle était maintenant assise sur le vieux Davenport devant la cheminée de la bibliothèque du docteur Bach, vêtue de soie noire depuis sa gorge blanche jusqu'à ses petits escarpins noirs. Elle était presque inhumaine dans son étrange beauté, avec sa chevelure aluminium, ses yeux d'argent et sa peau d'une pâleur de marbre, couverte de soie noire. Elle regardait innocemment Scott. « Et pourquoi pas ? » demanda-t-elle. « La cour m'a rendu mon argent, je peux acheter ce qui me plaît. »« Votre argent ? » bredouilla-t-il. « Vous aviez moins de $3 quand vous avez quitté l'hôpital. »« Mais c'est mon argent maintenant. »« Kyra, » dit-il abruptement, « où avez-vous eu cet argent ?» Son visage avait la pureté d'une sainte. Je l'ai pris au vieil homme. Vous l'avez assassiné ? Mais oui, évidemment. Il accusa le coup. Mon Dieu, souffla-t-il. Vous rendez-vous compte que nous devrons le dire ? » Elle secoua la tête doucement, en souriant, les regardant tour à tour. « Non, Dan, vous ne direz rien, car que pourrait-il en résulter de bon ? Je ne puis être jugé deux fois pour le même crime, pas en Amérique. » « Mais pourquoi, Kaïra ? Pourquoi avez-vous... Voudriez-vous que je reprenne la vie qui m'a conduite entre vos mains ? J'avais besoin d'argent, il y en avait, je l'ai pris. » « Mais c'est un meurtre !» C'était la façon la plus directe. « Pas si vous devez être puni pour cela, » répondit-il sèchement. « Mais je ne l'ai pas été, » lui rappela-t-elle doucement. Il grogna. « Kaïra, » dit-il, changeant soudain de sujet, « pourquoi vos yeux, votre peau et vos cheveux deviennent-ils plus foncés lorsqu'ils sont exposés à la lumière des flashs ?» Elle sourit. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Je n'avais pas remarqué. » Elle bâilla, étira ses bras et ses jambes fines. « Je crois que je ferais mieux d'aller me coucher. » Elle promena son magnifique regard sur eux, se leva, et disparut dans la chambre que le docteur Bach avait mise à sa disposition, sa propre chambre. Scott regarda le vieil homme, ses traits reflétant une intense émotion. « Vous voyez, siffla-t-il. Seigneur, est-ce que vous comprenez ? Et vous, Dan ? En partie, au moins. Moi aussi. » « Eh bien, dit Scott, voici ce que je comprends. Ce sérum... Ce maudit sérum que j'ai conçu a d'une façon ou d'une autre accru les capacités d'adaptation de cette fille à un degré inimaginable. Qu'est-ce qui différencie la vie de la matière non vivante ? Deux choses, le stimulus et l'adaptation. La vie s'adapte à son environnement, et plus les capacités d'adaptation sont fortes, plus l'organisme prospère. Maintenant, continua-t-il, tous les êtres humains ont une capacité d'adaptation considérable. Quand nous nous exposons au soleil, notre peau se pigmente, nous bronzons. Il s'agit d'une adaptation à un environnement qui comporte du soleil. Quand un homme perd sa main droite, il apprend à utiliser la gauche. Voilà une autre adaptation. Quand la peau est percée, elle guérit et se répare, et c'est un autre aspect d'une même chose. Les régions ensoleillées produisent des peuples à la peau noire et aux cheveux sombres. Les régions du nord produisent des blonds, et c'est toujours une question d'adaptation. Eh bien, ce qui est en train d'arriver à Kaïra Zelas, par quelque aberration que je ne comprends pas, c'est que ses capacités d'adaptation ont été poussées à l'extrême. Elle s'adapte instantanément à son environnement. Quand elle est touchée par le soleil, elle bronze immédiatement, et une fois à l'ombre, elle blanchit à nouveau. Au soleil, ses yeux et sa chevelure sont ceux d'une race tropicale. Quand elle est à l'ombre, ce sont ceux d'une race nordique. Et, mon Dieu, je m'en rends compte maintenant. Quand elle a rencontré un danger dans une salle d'audience, face à un juge et à un jury qui étaient des hommes, elle s'est adaptée à cela également. Elle a affronté ce danger, pas seulement en changeant d'apparence, mais en devenant tellement belle qu'elle n'aurait jamais pu être condamnée. » Il fit une pause. « Mais comment, comment ? » ?»« Peut-être la médecine peut-elle répondre à cette question, » dit Bach. « Sans aucun doute, l'être humain est le produit de ses glandes. Les différences entre les races, blanc, rouge, noir, jaune, viennent assurément du système glandulaire. » Et sans doute, les agents les plus efficaces de l'adaptation sont le cerveau humain et le système nerveux, qui sont contrôlés en partie par une petite masse grisâtre à la base du troisième ventricule du cerveau, devant le cervelet, là où les anciens pensaient voir le siège de l'âme. Je veux parler, bien sûr, de la glande pinéale. Je soupçonne votre sérum de contenir de la pinéaline, la fameuse hormone qu'on recherche depuis longtemps, et qui a causé l'hypertrophie de la glande pinéale de Kaïra. Et, Dan, vous rendez-vous compte que si ses capacités d'adaptation sont parfaites, alors elle n'est pas seulement invincible, mais invulnérable. « C'est vrai, » s'étrangla Scott. « Oui, elle ne pourrait pas être électrocutée, parce qu'elle s'adapterait immédiatement à un environnement contenant de l'électricité. et elle ne pourrait être abattue d'une balle, parce qu'elle s'y adapterait aussi rapidement qu'à vos piqûres d'aiguilles. Et le poison, mais il doit tout de même y avoir une limite.
Sans aucun doute, observa Bach. Je doute fortement qu'elle soit capable de s'adapter à un environnement qui comprendrait une locomotive de 50 tonnes qui lui passerait sur le corps. Et d'ailleurs, il y a un point important que nous n'avons pas pris en considération. Il y a deux sortes d'adaptation.
Deux sortes.
Oui, l'une est biologique, l'autre humaine.
Naturellement, un biologiste préférerait n'avoir à se préoccuper que de la première. Et de même, un chirurgien du cerveau comme moi ne tiendrait compte que de la seconde. L'adaptation biologique, ce sont tous les attributs de la vie, plantes, animaux, humains, qui s'adaptent tout simplement à l'environnement. Un caméléon, par exemple, montre les mêmes capacités que Kaïra, et il en est de même, à un moindre degré, du renard arctique, blanc en hiver et brun en été, ou le lapin des neiges, ou la martre. Toute forme de vie se conforme à son environnement dans une large mesure, parce que si elle ne le fait pas, elle meurt. Mais l'être humain fait plus que cela.
Plus ?
Bien plus ! L'adaptation humaine ne se contente pas de se conformer à l'environnement, mais elle permet de changer celui-ci pour qu'il soit plus à même de subvenir aux besoins des humains. Le premier homme préhistorique qui a quitté sa caverne pour construire une cabane en roseau a changé son environnement. Et ainsi ont fait, de la même façon, Steinmetz, Edison et même Jules César ou Napoléon. En fait, Dan, toute l'inventivité des hommes, leur génie, leur conquête militaire, trouvent leur source dans cette seule volonté de changer leur environnement au lieu de s'y adapter.
Il fit une pause. Puis il continua.
Bien, nous savons que Kaïra possède des capacités d'adaptation biologique. Ses cheveux et ses yeux nous le prouvent. Mais supposons qu'elle maîtrise l'autre capacité d'adaptation au même degré. Si tel est le cas, Dieu seul sait ce qui en résultera.